Radio Prague, les informations.
Affaires publiques mène un référendum interne sous le programme de coalition. Le président du comité militaire de l'OTAN en visite à Prague la semaine prochaine. Et en cyclisme dans le Tour de France, Roman Kreuziger se classe 7e au classement général. Le leader du parti Affaires publiques, Radek Yon, a fait savoir que le référendum en ligne destiné aux membres de son parti était désormais accessible ce dimanche après des problèmes techniques lors de son lancement vendredi. Ce référendum concerne le programme de coalition tripartite préparé par les trois partis de droite vainqueurs des législatives. 17 000 membres du parti sont appelés à s'exprimer dans ce référendum interne jusqu'à lundi 10h. Commentant ce référendum, le leader du parti communiste de Bohème, Moravie, Wojciech Filip, l'a qualifié de stratagème marketing. Invité du talk show politique du dimanche avec Radek Yon, il a critiqué le programme de coalition qu'il considère comme un programme de défense d'intérêts du monde des affaires. Le président du comité militaire de l'OTAN sera en visite à Prague la semaine prochaine. Jeudi, Gianpaolo Di Paola rencontrera le chef d'état-major de la République tchèque avec lequel il devrait discuter des missions militaires tchèques à l'étranger, notamment en Afghanistan. L'OTAN souhaiterait une plus grande implication de la République tchèque dans le pays, mais jusqu'à présent la droite tchèque s'est heurtée au veto de la gauche au Parlement. Gianpaolo Di Paola devrait également s'entretenir avec le président Klaus ainsi qu'avec le ministre de la Défense. Le film du réalisateur espagnol Agustí Vila, La Mosquitera, a reçu le grand prix du 45e Festival international du cinéma de Carlo Vivari qui s'est achevé samedi. Près de 127 000 spectateurs ont participé au festival, soit près de 5 000 en moins qu'en 2009. Nous ne cherchons pas à battre des records, a souligné la directrice artistique du festival. 207 films ont été projetés cette année, dont 24 documentaires. Le Tchèque Roman Kreuziger est arrivé 4e de la 8e étape du Tour de France, longue de 189 km, entre la station des Rousses et Morzine à Voriaz. C'est le Luxembourgeois Andy Schleck qui a remporté l'étape, tandis que le maillot jaune a été endossé par l'Australien Cadel Evans. Roman Kreuziger gagne 5 places au classement général et se retrouve ainsi 7e. C'est peut-être le moins connu des films du réalisateur de vol au-dessus d'un nid de coucou, Taking Off, le premier film américain du réalisateur d'origine tchèque Miloš Forman, ressort en salle en France le 14 juillet. Seul film qui a été réalisé sur le mouvement hippie pendant qu'il se déroulait, d'après le producteur Jean-Claude Carrière qui assiste à Forman, Taking Off est en tout cas un document saisissant sur l'Amérique de l'époque, comme l'écrivait le quotidien Le Monde samedi. Prix spécial du jury à Cannes en 1971, Taking Off a rencontré le succès en Europe, mais est passé inaperçu aux États-Unis. Enfin, un mot de météo, il va faire encore très chaud toute la semaine prochaine, à commencer par lundi, jour de fête des Bojek, où les températures seront encore largement supérieures à 30 degrés. Des orages pourraient rafraîchir l'atmosphère dans les jours qui viennent, mais le temps restera encore très estival, voire caniculaire. Voilà, c'est la fin du bulletin d'information, mais restez avec nous, je vous retrouve tout de suite pour Culture sans frontières. Ah !
Culture sans frontières, Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture sans frontières. Dans la rubrique de ce dimanche, je vous propose un entretien avec une des grandes dames du cinéma français, Micheline Prel, rendue célèbre notamment dans la très belle adaptation du roman de Raymond Radiguet, Le Diable au corps. Mais la filmographie de Micheline Prel, 88 ans, est bien plus importante. Elle a tourné avec les plus grands, de Georg Pabst à Abel Gance, en passant par Claude Autant-Lara. Elle part aux États-Unis après la guerre, où elle épouse William Marshall, dont elle aura une fille, la réalisatrice Toni Marshall. À son retour en France, elle sera injustement ignorée et ne retrouvera pas la gloire d'avant son départ. Elle était l'invitée du festival de Carlo Vivari, où elle présentait le film de Frédéric Socher, Hitler à Hollywood, l'occasion de revenir sur sa carrière et de commencer par lui demander si dans sa jeunesse, elle allait déjà au cinéma.
Mon père m'a emmenée très jeune au cinéma, quand j'étais pensionnaire à Notre-Dame de Sion. Enfin, un peu plus tard, j'avais quand même 12 ans, voilà, donc j'ai commencé. Mon père m'a emmenée à 10 ans, la première fois, j'avais 10 ans quand il m'a emmenée voir un film. C'est un film qui s'appelait Trader Horn, et qui était un film américain, et j'ai un souvenir d'une image qui représente une femme apparemment, parce que c'était en noir et blanc, bien sûr, avec des cheveux clairs, donc des cheveux blonds, et une espèce de pagne, et des animaux, des singes, des orangs-outans. C'était plus, en réalité, c'était, cette femme était l'ancêtre de Tarzan, une femme, et ça s'appelait Tredohorn. Voilà. Et puis, un peu plus tard, moi j'étais pensionnaire à Notre-Dame de Sion, après le divorce de mes parents, et le dimanche, ma mère était peintre, et le dimanche, la sortie consistait, on allait au Louvre et voir un film. Et c'est là d'ailleurs où je me souviens, alors qu'il n'y a pas une grande différence d'âge entre Michel Morgan et moi, je me souviens d'une image d'un film Orage, avec Michel Morgan et Charles Boyer, avec Michel qui était en combinaison blanche, assis sur le coin du lit, dans une chambre, et Boyer, voilà, c'est sur le coin. Et j'ai encore cette image en tête, et à ce moment-là, j'éprouvais un sentiment de quelque chose de torride, de péché, puisque j'étais dans la blessure, bien sûr. C'est ce qu'on disait, bon, ça c'était le péché, bien sûr, et absolument horrible.
C'est ces sorties au cinéma qui vous ont donné envie de faire du cinéma aussi?
Vous savez, c'est difficile de dire. Moi, je sais que j'ai toujours, quand j'étais enfant, mes jeux consistaient, d'abord, je lisais beaucoup. Quand j'avais de l'argent, j'achetais des contes, des tas de choses publiées comme ça en des petits journaux pour enfants.
Vous aimiez des histoires et vous faire raconter des histoires.
Oui, je racontais des histoires et j'aimais inventer. Mes jeux consistaient à inventer des histoires. J'avais des histoires voyageuses. Donc, tout d'un coup, mon petit frère, malheureusement, qui était beaucoup plus jeune que moi, puis malheureusement pour lui, devenait la fille d'un méchant seigneur. Moi, j'étais évidemment le méchant seigneur. Et là, je ne sais plus pour quelle raison, je l'enfermais dans un donjon, qui était mon armoire, l'armoire de ma chambre. Donc, plein de choses comme ça. Michel Strogoff, on m'avait offert une petite bicyclette pour Noël, c'est devenu un cheval. Et mon petit frère, à ce moment-là, m'avait attaché avec une ficelle, j'avais une petite badine à la main, on avait un petit jardin, et avec ma bicyclette, j'allais de plus en plus vite, je lui donnais des petits coups de badine quand même, parce que c'était un forçat, et moi, bon, voilà. Donc, sinon, je vous dis ça parce que, bon, à Notre-Dame de Sion, je me donne dans mon lit tous les soirs, et avec le drap par-dessus ma tête, et c'était toujours le même scénario, j'étais une espionne dangereuse avec un long fume-cigarette. Bon, vous me demandez, donc je vous explique comment, c'est mon imagination qui voyageait à la suite de mes lectures, mais dans le fond, avec cette envie de jouer, sans me poser, comme on le fait maintenant, je veux dire, bon, d'abord, c'est ça que j'aimais.
Puisqu'on parlait justement des films que vous alliez voir, quand vous comparez par exemple le cinéma des années 30, disons 40, 50 et le cinéma d'aujourd'hui, je pense simplement aussi à la différence entre le noir et blanc et la couleur.
Vous dites la chose sur laquelle je vous aurais répondu. Parce que le noir et blanc n'est pas la réalité. Donc c'est la magie et donc à ce moment-là, de toute façon, d'abord c'est beaucoup plus beau et puis... Et puis, je veux dire, l'imagination est en marche. Ça donne à chaque spectateur sa vision personnelle et avec sa vision personnelle aussi sa réflexion. Enfin, je vais un peu loin, mais voilà. Moi, j'aime beaucoup le noir et blanc. Beaucoup de cinéastes, comme Truffaut d'ailleurs, ont essayé de revenir au noir et blanc, mais il n'existe plus les labos ni la pellicule. Et puis surtout, je dis, de toute façon, c'est un interdit qui vient, je dis presque un interdit, qui vient de la télévision, puisque voilà, tout ce qu'on fait maintenant, c'est... avec la télévision.
Impossible de ne pas vous poser des questions, évidemment, sur Le Diable au corps, qui est un des films cultes. Alors, j'ai lu quelque part que c'est vous qui aviez engagé, en fait, Gérard Philippe.
Je n'ai pas engagé. J'ai été engagée.
Qui avait amené, en fait, Gérard Philippe.
Oui, voilà. J'avais un contrat assez extraordinaire avec un producteur. J'avais reçu un télégramme un jour me disant « Vous avez vu dans Boule de Suive, j'aimerais vous rencontrer pour éventuel contrat, etc. » Bon, j'ai signé un contrat avec lui. Et j'avais, donc, signant ce contrat avec lui, j'avais un contrat pour faire des films dans lequel j'avais, le choix du scénario, surtout d'abord metteur en scène et je veux dire scénariste, après de tout, évidemment, et ça je l'ai dit tout de suite, et de l'acteur principal, j'avais le contrôle sur tout. Et il ne connaissait d'ailleurs pas le cinéma français. C'est moi qui lui ai fait rencontrer, voir une projection d'un film d'Outant Lara. Et donc, on a signé le contrat avec eux. Mais c'était mon choix parce que c'est parti, voilà, de cette manière-là. Mais moi, à cette époque-là, c'est ça qui m'intéressait. J'avais beaucoup de projets en tête, d'ailleurs avec dans Lara, Orange. Moi, j'avais bien l'intention de qu'on fasse quelque chose, un film avec Les Liaisons Dangereuses. Madame Bovary, ça n'avait pas encore été fait, hein. Et puis j'ai même rencontré Ophuls quand je suis partie aux États-Unis, justement avec Greg, le producteur du Diable au corps, et je me souviens d'un déjeuner que nous avons fait ensemble, et je devais donc interpréter Lettre à une inconnue. Alors, vous voulez me dire pourquoi je ne veux pas rentrer dans ma vie privée, mais j'ai fait une rencontre à ce moment-là, avant, qui est Bill Marshall, et ça, voilà, ça m'a apporté une grande joie, et puis voilà, qui est Tony Marshall. Mais en dehors de ça, ça a tout fait capoter dans ce qui était ma carrière. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie, mais c'est ça.
Pourquoi pensez-vous justement que la France était aussi ingrate finalement à votre retour ?
Je ne sais pas. Mais vous savez, j'ai toujours dit, dans le fond, je pense qu'il y avait un rapport entre le public et moi. Presque, pas charnel, c'est beaucoup dire, mais enfin, voilà, d'amitié très proche. Et en réalité, c'est un peu comme le fait que j'aurais quitté un mari ou un amant. Quand je suis revenue, il n'est plus là, il ne me l'a pas pardonné, parce que réellement, je n'existais plus du tout. Et il y avait, j'ai fait un film que je ne voulais absolument pas faire, qui m'avait été proposé par Maurice Lehmann, qui était à ce moment-là même le directeur de l'opéra, qui était producteur, un grand producteur, qui voulait absolument faire La Dame aux Camélias avec moi. Moi, je voulais absolument pas faire La Dame aux Camélias, et pour une bonne raison, de toute façon, c'est qu'il y avait un film magnifique avec Greta Garbo qui s'appelait Camille, et je n'allais pas me faire refaire La Dame aux Camélias. Et quand je suis revenue, il a été le seul à revenir à la charge, disant, et me proposer, c'est la seule proposition que j'ai, et j'ai fait La Dame aux Camélias, que je n'avais pas envie de faire, qui d'ailleurs n'est pas un film intéressant, et puis bon, voilà. Et ça a été très difficile. Non, réellement, ça a été la dégringolade et le noir complet. En fait, j'ai commencé une autre vie dans ce métier, quand il y a eu d'abord la nouvelle vague, il y a eu ce nouveau cinéma indépendant. Et vous savez, les choses sont dans l'air, c'est toujours comme ça. Moi, j'ai été voir tous les premiers films. J'allais au cinéma 2 heures tous les jours. Après ça, il y a eu les indépendants américains sont venus après. D'ailleurs, c'est dit dans un livre qui s'appelle Hollywood, je crois, ou Scorsese. Et ont une référence, je veux dire, ce nouveau cinéma américain qui est venu à la suite de je veux dire, cette nouvelle forme moderne du cinéma, enfin, je veux dire, nouveau cinéma. En réalité, ils sont venus à moi. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit d'ailleurs, si j'existe encore, c'est grâce aux jeunes cinéastes. Et je veux dire, ça continue vague. D'ailleurs. Voilà, c'est vrai.
Ça veut dire finalement que les personnes plutôt de votre génération...
Alors ça, je veux dire, ça, alors là, ceux qui restent, ceux d'avant et ceux qui restent, ça alors, de toute façon, non.
On n'est pas prophète dans sa propre époque.
Rien du tout. Mais c'est très bien. On a une vision un peu différente. Il se trouve, c'est pas... voilà, moi, je suis plus âgée qu'eux, mais c'est dans la tête... dans ma tête, dans ma manière de regarder, de recevoir, je veux pas dire que je suis pas de ma génération, si je suis de ma génération, ça dépend de voilà.
Vous vous êtes amusé sur le tournage de Hitler à Hollywood ?
Beaucoup. beaucoup. Oui, je l'ai dit, j'ai toujours avec Frédéric, c'est une rencontre et on échange beaucoup et ça c'est ce qui est le plus important dans la vie.
J'aurais juste une dernière question. Ça, c'est un peu plus parce que même ma génération et les gens qui m'entourent m'ont dit qu'il fallait absolument que je vous la pose. Gérard Philippe, est-ce qu'on tombait amoureuse de lui dès qu'on le voyait ?
Non, pas dès qu'on le voyait. Ah, je suppose que oui, mais ça c'est différent. Moi, ça a été mon choix, Gérard, hein, parce que je l'avais... Bon, je vais pas revenir encore là-dessus. On m'a demandé, et c'est, je peux le dire, je crois que c'était inévitable. J'ai eu un sentiment amoureux. Je dis bien un sentiment amoureux. Et qui peut-être était nécessaire, bon, à notre rencontre dans le film, mais bon, c'est tout. Il était déjà d'ailleurs, avec sa femme Nicole, et je veux dire donc, non, je veux dire ça, on l'a demandé, donc je suis très sincère en disant oui, je sais qu'il y a eu un sentiment amoureux, moi de toute façon j'avais aussi pas vu, je dis, c'est pas la question, mais dans le film et par le film, c'était inévitable.
Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au Musée d'Or, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers.
C'était l'actrice française Micheline Prel qui était présente à Karlovy-Vary pour présenter le film du Belge Frédéric Socher, Hitler à Hollywood. Retrouvez évidemment cet entretien sur notre site internet www.radio.cz/fr. Merci de votre fidélité. À bientôt. Ahoy.
Car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers.
Vous avez dit la République tchèque, voyagez donc. Jarka Gregorova.
Imposant et grandiose, le palais Colloredo Mansfeld, réalisé à l'initiative de Vincent Paul, prince de Mansfeld Fondi, est une vraie merveille. Construit d'après le projet de l'architecte Franz Ignaz Prey dans les années 1730 à 1735, le bâtiment fait sans aucun doute partie des plus beaux palais de Prague dans le style rocaille. Le palais Colloredo Mansfeld a vécu sa plus grande gloire sous le règne de l'archiduchesse Marie-Thérèse de Habsbourg, reine de Hongrie et de Bohême, époque à laquelle le palais est devenu le centre de la vie sociale et culturelle de Prague. En ces lieux étaient organisés des bals masqués dans un style Mozart, jouissant d'une grande renommée, dont la tradition a persisté jusqu'au début du XXe siècle. Le régime communiste mit fin à cette gloire centenaire. Pendant de longues années, le palais resta sans vie, plongé dans la tristesse et l'oubli. Évidemment, au fil des ans, il se détériora et perdit beaucoup de son prestige d'antan. Mais heureusement, comme la Belle au bois dormant fut rendue à la vie par un prince charmant, le palais Colloredo Mansfeld a été sauvé et sorti de sa torpeur grâce à l'initiative et au travail acharné de Carnaval à Praha et à l'atelier Francis Vussin. La vie est revenue au sein du merveilleux palais le jeudi 8 juillet avec l'ouverture du centre d'information et de l'Institut de la culture baroque. Plus de détails avec l'auteur du projet Carnaval à Praha et le fondateur de l'atelier Francis Vussin, l'architecte Rostislav Maria Müller.
Díky zkušenostem, které jsme nabyli pořádáním.
Suite aux expériences acquises depuis des années par l'organisation du Carnaval de Prague, nous aimerions essayer de réunir les gens et les groupes de gens qui se consacrent à la culture baroque qui a atteint Prague très intensément et d'essayer de créer un institut de la culture baroque dans lequel on pourrait développer différentes activités au cours de l'année et travailler systématiquement sur le dépoussiérage des joyaux baroques de Prague. L'idée de créer l'Institut a bien évidemment mûri pendant une certaine période dans nos têtes et pour la saison d'été 2010, nous avons enfin mis en œuvre cette idée. Nous préparons donc un projet pilote pour la saison d'été de façon à ce que l'Institut commence à vivre.
À l'occasion de l'ouverture du centre d'information et de l'Institut de la culture baroque, un gala-concert de musique et de danse baroque a eu lieu également le 8 juillet à 20h dans la salle principale du palais. Les spectateurs entraient par le portail monumental, décoré par des vases décoratifs, un putti et des armoiries provenant du célèbre atelier Braun. Au début, ils ont probablement dû être déçus par les couloirs délabrés et les peintures défraîchies. Mais quel fut leur étonnement lorsqu'arrivés au deuxième étage, leur regard s'ouvrit sur une somptueuse salle en forme d'ellipse, richement décorée de peintures et de stucs. La voûte fascinée par une fresque peinte par les peintres italiens Giovanni Battista Zeist et Pietro Scotti. Ainsi, comme par le mouvement d'une baguette magique, les spectateurs étaient transportés dans un temps depuis longtemps révolu, à l'époque du baroque. Au son de la musique de Mozart, Lully, Albinoni, Campra, Finger, Handel et Marais, interprétée par Carnevale Baroque Orchestra, on se posait la question si Mozart ou un autre des grands maîtres du baroque n'allait pas apparaître en chair et en os pour saluer le public. Les danses baroques, interprétées par Hartig Ensemble, sous la direction de l'un des plus grands experts de la danse baroque, le professeur Helena Casanova, étaient non moins fascinantes. Les activités de l'Institut de la culture baroque, dont le siège se trouve au Palais Colorado Mansfeld, seront réparties en plusieurs étapes. Rostislav Maria Müller.
Bude spočívat v tom, že bychom rádi propojili.
La première étape consistera à faire des spectacles de théâtre, de musique et de danse en costumes authentiques de l'époque en compagnie d'ensembles et d'orchestres spécialisés sur la musique baroque. Il faut dire que la danse en particulier jouissait à l'époque du baroque d'une grande importance. Tout ce bloc artistique sera présenté au sein du magnifique palais Colorado Mansfeld qui jusqu'alors n'a pas été exploité et comme c'est vraiment un joyau baroque, il mérite bien de revivre. En plaçant en son sein les manifestations artistiques, je pense qu'il fera briller la scène culturelle.
Les concerts et les spectacles de danse baroque au Palais Colorado Mansfeld, organisés par le Carneval de Praha, l'atelier Vucin et la mairie de la ville de Prague, se poursuivront jusqu'à fin septembre ou mi-octobre. À la fin de la saison estivale, Carneval de Praha et l'atelier Vucin évalueront d'autres possibilités d'élargissement et envisageront d'autres activités pour la prochaine saison d'été, par exemple des conférences, la publication des documents sur le baroque ou l'organisation de festivals de la culture baroque. Les activités qui se dérouleront au sein du Palais Colorado Mansfeld au cours de la saison d'été et début automne seront une ouverture du Grand Carnaval de Prague. Rostislav Maria Müller.
Dá se to tak říct, myslím si, že je to i důležitý z toho důvodu, že
Oui, il en est ainsi et je crois que c'est important car les opinions sur la culture baroque sont assez spécifiques. Mais je pense qu'il peut s'adresser à un public beaucoup plus large. Nous désirons que ce projet soit une passerelle entre les grands amateurs et experts du baroque et les laïcs fascinés par cette époque. Il est donc nécessaire d'organiser ce type de rencontre entre les gens qui étudient cette époque, l'aiment et s'y consacrent de façon intense.
Zprostředkovat to spojení a setkání mezi lidmi, kteří intenzivně toto období studují, milují a věnují se mu a mezi lidmi.
C'était l'auteur du projet Carnaval à Praha et le fondateur de l'atelier Francis Fussin, l'architecte Rostislav Maria Müller. L'émission de Radio Prague en langue française se termine, chers auditeurs. Toute l'équipe vous remercie de votre attention et nous sommes toujours prêts à recevoir vos idées, remarques et suggestions.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz, at 1030 hours on 9880 kHz. At 1300 hours on 11600 kHz, at 1600 hours on 9740 kHz, at 1700 hours on 9740 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Central and Western Africa can tune in at 2130 hours UTC on 9410 kHz. In the Near East and Middle East, you can listen at 0900 hours UTC on 17650 kHz and at 0330 hours on 9445 kHz. You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio.